colloque. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Cet exposé traite d'un sujet historiquement très récent. La naissance de l'espace, c'était il y a 60 ans. Et donc, pour nos travaux ici, c'est quand même, ce sont des sujets un peu particuliers, parce que cette proximité temporelle crée une forme de familiarité. On est à la fois, on a assisté à une partie, et en même temps on doit juger un peu avec le recul historique, c'est pas très facile. Mais enfin, je vais essayer de vous proposer, c'est le but de cet exposé, malgré cette proximité, de discerner une structure par période dans la relation entre technologie spatiale et conflit. Je dirais d'ailleurs plus que de période, c'est un processus en construction, et je vais vous proposer plutôt une lecture qui met en évidence des couches, en fait un empilement de couches, un peu à la manière de strates géologiques. Donc je vais essayer de vous donner cette vision de l'usage des technologies spatiales. Les technologies spatiales ne se meuvent pas dans le vide politique. Et elles révèlent en fait un lien étroit avec les rapports de puissance et avec l'évolution de ces rapports de puissance. C'est le cas depuis Spoutnik. Et donc cet exposé consistera à vous donner ma grille de lecture, hein, c'est une grille de lecture, destinée à mieux comprendre l'évolution des technologies spatiales militaires dans le cadre de nos travaux. Alors, à chaque fois que je fais ce type d'exposé, je fais une remarque préalable, parce que le milieu spatial et l'activité spatiale au plan mondial est doté de caractéristiques très particulières et qu'il faut avoir en tête quand on parle d'espace. L'espace aujourd'hui, l'activité spatiale depuis les débuts, hein, ça compose un paysage mondial très contrasté qui met aux prises des pays qui font preuve d'une grande disparité entre eux. En gros, c'est une manière de mesurer les choses. On pourrait le faire avec le budget, on pourrait le faire de différentes manières. Vous avez aujourd'hui, en 2015, à peu près 1305 satellites en orbite opérationnelle. Vous en avez 550 à peu près qui sont satellites américains, 130 russes, 130 chinois, 130-140 chinois. Sur les 550 américains, vous en avez 152 qui sont militaires. Et vous en avez une quarantaine pour les russes, une quarantaine pour les chinois. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que nous sommes en présence d'un milieu par excellence asymétrique en réalité. Il y a des acteurs qui sont, tous les pays sont égaux entre eux, mais il y a des acteurs qui sont plus égaux que les autres, et en particulier dans le domaine spatial. Alors c'est un peu moins vrai maintenant que ça l'a été pendant la guerre froide. Pendant la guerre froide, on avait deux puissances, point barre, qui se partageaient l'espace, si j'ose dire. C'était l'expression même de l'affrontement bipolaire. C'est un peu moins vrai aujourd'hui. On a un peu moins d'une soixantaine de pays qui ont un satellite, qui sont propriétaires d'un satellite en orbite. Mais enfin, les disparités restent très importantes quand même, dès lors qu'il s'agit d'utiliser l'espace à des fins opérationnelles, notamment dans le domaine militaire. En termes de budget, les États-Unis, c'est plus de la moitié des investissements mondiaux. Et si on prend simplement les investissements militaires dans l'espace, on est à peu près à 70-80%, 70% d'investissement pour 60, pour 100 dollars ou 100 euros investis dans l'espace dans le monde. Vous en avez 70 militaires. Dans l'espace militaire, vous en avez 70 qui sont investis aux États-Unis. Tout ça, faut garder ça en tête parce qu'on a deux planètes, finalement, qui se côtoient dans le milieu spatial, dans l'activité spatiale. Et ça crée un contexte particulier dès lors qu'on parle de diplomatie spatiale ou même dès lors qu'on parle de confrontation des volontés, hein, en termes militaires. Donc cette asymétrie définit des stratégies d'emploi qui sont très différentes selon les pays et très différentes selon les intérêts de ces pays. Bon, j'y reviendrai. Mais d'abord, je vais essayer de revenir un petit peu sur... peut-être je crie un peu fort dans ce micro. Je vais le mettre ici. Je vais essayer de vous donner cette succession de couches géologiques. Alors d'abord, l'espace, il est historiquement, sa naissance est historiquement très très marquée, vous le savez, par la guerre froide. Et en fait, l'espace, pour moi, ça naît de deux rencontres. Ça naît d'une rencontre technologique d'abord, celle des missiles balistiques et de l'arme nucléaire. On a la rencontre de deux technologies qui vont faire que l'espace va être utile pour gérer les conséquences de cette rencontre. Et puis ça naît d'une autre rencontre, qui donne du sens à la première, d'ailleurs, c'est la rencontre géopolitique de deux blocs qui s'affrontent. Et donc, tout ça crée une alchimie qui fait que l'espace va prendre un sens politique, militaire, politico-militaire, immédiat, dès lors qu'on va se rendre compte que c'est l'instrument qui va permettre de gérer les rapports de puissance dans l'après-guerre, et qui va notamment permettre de gérer l'équilibre bipolaire et ce qu'on a appelé hier, d'ailleurs, la dissuasion mutuelle assurée, la destruction, cette idée de destruction mutuelle assurée. Donc, cette concomitance, concomitance de ces rencontres, crée finalement une situation unique, historique unique, dans un contexte qui est celle de cette rencontre des deux blocs. Donc souvent, quand on dit aux gens « mais l'espace pour vous, c'est quoi ? C'est Apollo ? » Non, c'est pas Apollo. Qu'est-ce qui fait l'activité spatiale ? Qu'est-ce qui a fait le fond de l'investissement ? C'est pas la course à la Lune. C'est la stabilité de cette connexion politico-militaire qui a fait, qui a construit les raisons de l'investissement étatique massif dans les technologies spatiales, qu'il s'agisse des lanceurs ou des satellites. Donc, il faut être clair, les pouvoirs politiques ne sont jamais allés dans l'espace pour aller dans l'espace, pour l'amour de l'art. Il y avait une vraie raison, et cette raison était impérieuse. Alors, c'est ce que j'appelle, moi, la couche socle, si vous voulez, qui est encore aujourd'hui, c'est toute son activité, tous ses fondements, c'est ce que j'appelle l'espace stratégique. C'est l'ère de l'espace stratégique. L'idée, c'est que, finalement, qu'est-ce qu'il faut éviter après-guerre ? C'est la possibilité d'une attaque surprise. Parce qu'une attaque surprise après-guerre reproduirait une forme de Pearl Harbor qui, cette fois-ci, serait fatale. Et on veut tout éviter. On veut éviter en particulier, effectivement, que se mettent en place les moyens pour l'un ou l'autre, l'une ou l'autre des deux grandes puissances, de pouvoir procéder à cette attaque surprise. Et le seul moyen, on a parlé de la RAND tout à l'heure, la RAND a été très active. La RAND a produit un rapport en 1947 expliquant... Son premier rapport expliquant qu'un moyen possible pour surveiller l'adversaire serait de propulser un objet suffisamment rapidement, suffisamment haut, lui communiquant suffisamment de vitesse pour qu'il puisse survoler en défilant, en ayant le globe qui défile sous lui, qu'il puisse survoler les territoires interdits finalement et qu'il puisse essayer de prendre des images, des photos. C'est le lancement des satellites espions. Ça, c'est 47, c'est bien avant Spoutnik, c'est 10 ans avant Spoutnik. On va avoir un programme constitué dès 1955 aux États-Unis pour lancer, tout à fait secret, les satellites espions. Il faut vous dire qu'on va reconnaître officiellement leur existence seulement en 1993. C'est Clinton, c'est l'administration Clinton qui va reconnaître l'existence. Avant, on appelait ça des moyens techniques nationaux. Alors, c'était dans tous les traités, mais on n'appelait pas ça les satellites. Tout le monde savait que ça existait, bien sûr. Mais voilà. Donc, on va lancer ces choses-là. Alors, les satellites espions, qu'est-ce que c'est au début, hein ? Au début, ce sont des appareils photo volants, en fait. Vous avez une reproduction ici. Qu'est-ce qui se passe? On lance un gros appareil. Alors ça, c'est le programme de la CIA, qui était le programme Corona. Il va délivrer ses premières photos, ce programme, en août 60. Donc vous voyez ici, enfin, figuré ici, vous avez le film, hein, parce que bon, il s'agit de film. Alors le film, vous avez un transport de film, et puis l'appareil photo prend. Et après, la petite capsule qui est ici est éjectée. Et il faut qu'un avion équipé d'un filet aille récupérer la capsule qui descend. Alors ça donne lieu à des choses assez rocambolesques quand on va dans les archives nationales américaines. C'est assez marrant parce qu'on voit des messages de... Parce qu'évidemment, ils récupèrent pas... Bon, les pilotes, c'était une élite. Ces gens qui faisaient ça se voyaient comme une élite. Et c'en était une. C'était un peu des basketteurs à l'envers. Ils amenaient le panier au ballon, si j'ose dire. Mais enfin, parfois, ils rataient leur cible. Et donc, il fallait récupérer, évidemment, parce que ces satellites étaient censés... ces capsules étaient censées transporter des graines. Et on vérifiait la pousse de ces graines en apesanteur. C'est un programme scientifique. En réalité, évidemment, ça ne transportait pas de graines. Donc il ne fallait surtout pas que le camp d'en face se mette à ouvrir la capsule, etc. Et donc on trouve des messages assez marrants où vous avez, maintenant c'est déclassifié, la troupe qui est envoyée au Spitzberg, qui dit « Ah bah oui, effectivement, dans la neige, là on a bien vu, il y a un cratère, mais on a un problème, il n'y a plus rien dans le cratère, et il y a des traces de pas qui sortent d'une mine et qui retournent à la mine, qu'est-ce qu'on doit faire ?» Enfin bon, c'est vraiment... Vous savez qu'au Spitzberg, les mines étaient gérées par les soviétiques, enfin bon. Donc c'est quelque chose d'assez sportif. Alors, c'est important cette période-là, cette période de l'ère stratégique, parce que ça va complètement configurer, et aux États-Unis et en Union soviétique, l'activité, l'industrie autour de cette activité et les doctrines d'emploi. Et vous allez voir qu'en fait... Alors ça, c'est la première photo qui va être prise par un satellite américain. Avec une résolution de 10 mètres, et évidemment, c'est pas terrible, hein, il y a pas mal de grains, on est dans de l'analogique, dans ce film argentique, et vous allez voir qu'en 6 ans, on va faire des progrès considérables. On met un effort considérable pour technologique, industriel, etc., pour faire en sorte qu'on puisse compter les missiles soviétiques. L'idée, c'est de savoir s'il y a un missile gap ou pas. Eisenhower, il n'y croit pas au missile gap, c'est un militaire, il sait très bien qu'en regardant les infrastructures, etc., s'il y avait 4000 missiles, comme dit à un moment un détracteur au Parlement, on n'aurait pas de telles infrastructures. Mais il faut qu'il le prouve. En plus, aux États-Unis, il y a toujours cette notion de gap. Je vous rappelle qu'en 52, il y avait eu la notion du bomber gap aussi. Sous Carter, il va y avoir la notion du monitoring gap. Il y aura des gaps bientôt dans d'autres domaines. Il y a toujours cette idée de gap, de risque de saut de la part de l'adversaire. Mais c'est vrai que c'était structurant politiquement. Dans le débat politique américain, la notion de missile gap était une notion politique. Et donc, il fallait des moyens techniques pour d'abord se rassurer stratégiquement et en plus prouver son fait d'un point de vue politique. Donc, on va avoir une connexion très forte entre une technologie qui émerge et un objectif politique étrangère, politique intérieure, qui lui donne son sens. Et c'est à partir de là, et c'est l'espace militaire et pas l'espace civil, qui va créer cette connexion très forte et qui va permettre d'investir des budgets considérables aux États-Unis, ce sera le cas aussi en Union soviétique, d'investir des budgets considérables dans l'activité spatiale. Pour vous donner une idée de... Alors oui, je vous ai mis encore quelques... Toujours, hein, l'espace stratégique, on sortait, c'était carrément grand comme des bus. Hein. Là, vous avez le KH-9, hein, ça c'est les années... tout début des années 70... vous voyez que c'était des choses considérables avec des caméras. Ça, c'est quand même les premiers satellites qui permettent de renvoyer les données au sol par radio et non plus en éjectant des capsules. Alors ça, c'est une grande avancée, à dire qu'il va se faire essentiellement aux États-Unis d'ailleurs, et nettement moins en Union soviétique. Très rapidement, j'ai pas beaucoup de planches à vous montrer, mais je voulais vous montrer ça. Vous avez représenté sur ces planches. Chaque petit point, c'est un satellite lancé, en fait. Donc, vous avez en abscisse l'échelle de temps, et puis vous avez les différentes familles de satellites. La largeur du point est proportionnelle à cette durée de vie en orbite. Hein, c'est-à-dire plus le point est gros, plus ça dure longtemps. Plus, en tout cas, il est large, plus ça dure longtemps. Donc ça, vous avez l'effort américain. Là, vous voyez que c'est déjà entre 60 et 65. On envoie énormément d'objets en orbite. Côté russe, c'est encore pire. Ou encore mieux, comme vous voulez, on envoie beaucoup plus d'objets en orbite, ce sont les satellites militaires, on les envoie à très basse altitude, ils durent très peu de temps, on fait de la série, on envoie avec des lanceurs qu'on produit en série, et on tire. Ça va devenir d'ailleurs une méthode russe jusqu'à aujourd'hui. Les Russes, les Soyouz aujourd'hui, sont les lanceurs qui ont le plus tiré. Ils sont à plus de 1600 tirs aujourd'hui, historiquement c'est unique. Donc ça, c'est jusqu'aux années 80. Ce qui change dans les années 80, toujours dans l'observation de la Terre à des fins stratégiques, hein, on est toujours dans l'ère stratégique, observation des forces nucléaires, des forces balistiques, c'est que les points dont je parlais tout à l'heure, eh bien, ça devient des segments de droite. Alors ça devient des segments de droite aux États-Unis parce que désormais, on n'éjecte plus de capsules, donc on peut durer longtemps en orbite, on fait de la liaison radio, et à partir de là, on lance beaucoup moins, mais de manière beaucoup plus opérationnelle, on va dire, avec des instruments très sophistiqués. Côté soviétique, même échelle de temps, vous voyez qu'on prend pas la même, option parce que, il y a déjà un aspect de différentiel d'accès aux technologies électroniques modernes, etc. Et puis il y a cette tradition qui s'est mise en place avec des notions de coûts qui ne sont pas du tout les mêmes en Union soviétique aux États-Unis. Donc de toute façon, il y a des plans qui sont réalisés en Union soviétique pour lancer des satellites. On continue à lancer des capsules. Je crois que la dernière capsule a été lancée il y a quelques mois simplement. On a encore utilisé, maintenant l'Union soviétique, la Russie dispose de satellites qui transmettent par radio, mais encore jusqu'à très récemment, le dernier vient d'être lancé il y a quelques mois, le dernier satellite qui permettait de récupérer des photos argentiques. Alors on n'a pas fait que de l'observation, hein, dans la gestion du fait nucléaire, qu'est-ce qu'on sait faire aussi depuis l'espace ? Très vite, on se rend compte que depuis l'espace, on peut surveiller ce que fait l'autre. On peut surveiller ses tirs notamment. Et donc en disposant des satellites sur l'orbite géostationnaire, c'est l'orbite où la Terre finalement se déplace en même temps que le satellite et donc crée un poste d'observation fixe relativement à la surface terrestre, eh bien on peut détecter avec des capteurs infrarouges des tirs de missiles. Alors ça va se faire très tôt aussi, ça va se faire de la même façon que pour les satellites d'observation aux États-Unis dès les années 60. Hein. C'est le programme MIDAS, etc. Et puis ça va devenir le Defense Support Programme jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, le Defense Support DSP est remplacé par un autre système. Eh bien, vous voyez qu'en Union soviétique, il y a toujours ce petit décalage de phase, mais on fait la même chose. Alors, on ne le fait pas en géostationnaire, parce que c'est très compliqué, à partir du territoire soviétique, d'aller jusqu'à l'orbite géostationnaire. Donc, on prend des orbites elliptiques très élevées. C'est des orbites dites Molnia ou Tundra. Et donc, on va lancer en permanence plusieurs satellites sur ces orbites pour simuler une forme de géostation, si vous voulez. Mais on va avoir la même chose. Donc ça aussi, qu'est-ce qu'on va faire ? On va essayer d'écouter ce qui se passe. On s'espionne. Et donc là, on fait de l'écoute électronique. Donc là aussi, dès les années 60, exclusivement pour gérer cette relation bipolaire, on va lancer un ensemble de satellites d'interception électromagnétique. On va écouter les communications, bien sûr. On va essayer d'écouter les télémétries entre les postes de commandement et les missiles qui sont tirés, pour avoir la télémétrie du missile qui est tiré. Chaque satellite va être spécialisé dans une forme d'interception. On va intercepter des signaux, des communications, etc. Ben, vous avez en haut, en bleu, vous avez ce que font les États-Unis. Eh bien, vous avez le symétrique de ce que font l'Union soviétique en bas. Alors ça, j'y reviendrai. Donc, si vous voulez, aux États-Unis, comme en URSS, finalement, la gestion de cette relation bipolaire, c'est le facteur principal d'incitation au développement des moyens spatiaux à des fins militaires, lors de cette ère que j'appelle l'ère de l'espace stratégique. Pour le duopole, finalement, trois caractéristiques. Le lien se fait très directement entre l'espace et le nucléaire. Il n'y aurait sans doute pas eu d'espace de la même manière s'il n'y avait pas de nucléaire. Il y a une démarche stratégique qui est fondée sur la prévention de l'attaque surprise, ça c'est très clair, et c'est une stratégie qui est toujours à l'œuvre. Et notamment cette vision de l'attaque surprise, c'est quelque chose qui est toujours obsédant. On a parlé il n'y a pas si longtemps, d'un Pearl Harbor spatial, etc. On fait toujours appel à ces notions d'attaque surprise. Donc ça reste. Donc je vous donnais l'idée non pas d'une période qui va s'arrêter avec la fin de la guerre froide, elle va continuer. Aujourd'hui, on continue à développer ces satellites-là pour regarder les mêmes objets. Simplement, on va ajouter d'autres couches. Donc c'est cette couche, c'est le socle, si vous voulez, pour moi. Alors, je vous disais que les évolutions des technologies spatiales sont très liées à l'évolution des relations bipolaires. Et d'une certaine manière, on va être en présence de technologies qui vont s'installer comme facteurs de régulation des relations internationales dans la guerre froide. Donc on va voir cette association extrêmement étroite. Très tôt, l'Union soviétique, par exemple, avait imaginé d'envoyer en orbite ce qu'ils appelaient des bombardiers spatiaux, avec l'idée que s'ils envoyaient ces bombardiers spatiaux en passant par le sud, ils pouvaient contourner les radars d'alerte américains et finalement avoir une sorte d'épée de Damoclès qui menacerait les Américains, etc. À partir du moment où les Américains vont mettre en œuvre le programme Midas, ces bombardiers spatiaux n'ont plus lieu d'être, puisqu'en réalité, le moindre tir, y compris vers le sud, va être détecté par les satellites géostationnaires. Alors, vous voyez que là, on a ce genre de choses. On va avoir aussi pas mal de tentatives des deux côtés de développer, dans les années 60, des systèmes anti-satellites. Des systèmes anti-satellites basés sur l'introduction de la défense aérienne élargie, puis défense anti-missile. Très vite, on va se rendre compte, il va y avoir des expérimentations qui vont être faites des deux côtés. Mais on va se rendre compte très vite que c'est un facteur perturbation dans la gestion de cette relation bipolaire plutôt qu'autre chose. C'est pas un facteur qui va aider, en fait, à établir une sorte de relation implicite entre les deux puissances. Et donc, des deux côtés, c'est quelque chose qui va être assez disqualifié. Alors, surtout du côté américain, on se dit, mais là, on va se tirer une balle dans le pied, il faut faire très attention. Le problème, c'est qu'il faut pas non plus départir complètement de recherche dans ce domaine, mais enfin, il faut éviter que l'espace ne deviennent un champ de bataille parce que à l'ère nucléaire, c'est de l'intérêt de personne que ça le devienne. Et donc, il va y avoir une sorte de d'accord implicite, finalement, pour sanctuariser l'espace. Et l'une des caractéristiques de l'ère de l'espace stratégique, c'est la sanctuarisation du milieu spatial. On est d'accord pour pas se chercher de difficultés, pas se créer de difficultés mutuelles dans l'espace pour mieux les gérer sur Terre. Alors ça, c'est très important parce que donc on va arriver, par exemple, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, à des traités de désarmement ou des traités de limitation à la course aux armements, SALT 1 par exemple, SALT 2 également. On va parler de moyens techniques nationaux. Et les spécialistes soviétiques et les spécialistes américains savent que quand on parle de National Technical Means, en fait, on parle de satellites espions. On n'en parle pas officiellement, mais on les intègre dans les traités pour dire qu'on est capable de se surveiller mutuellement, etc., etc., et que c'est autorisé de le faire. Certaines manières, d'ailleurs, Spoutnik en 57 a créé un précédent, c'est celui du survol. sans que ça en freine la souveraineté. C'est-à-dire, de ce point de vue-là, Spoutnik a permis de faciliter les choses pour la suite. En 67, on va signer, par exemple, le traité sur les utilisations pacifiques de l'espace extra-atmosphérique, qui prohibe le déploiement d'armes de destruction massive dans l'espace. On va le signer facilement parce qu'en réalité, on se rend compte que d'abord, c'est plus facile de balancer un missile balistique que de mettre une arme nucléaire dans l'espace, etc. Sachant qu'en plus, la notion de bombardier orbital a été totalement disqualifiée. Si on a pu signer ce type de traité, c'est parce que techniquement, on savait que c'était moins intéressant et c'est de donc s'acheter à bon compte, je dirais, une conduite pour les deux puissances et apparaître comme ça, comme faisant la promotion d'une forme d'humanisme spatial. Alors, cette couche stratégique, franchement, elle est très importante parce que c'est le soubassement de tous les efforts qui, encore aujourd'hui, portent leurs fruits et ont construit l'industrie spatiale aussi bien aux États-Unis qu'en Union soviétique. Mais ça ne veut pas dire qu'on est aujourd'hui réduit à ce type d'utilisation militaire de technologie spatiale. La relation bipolaire s'est transformée. Hein, je ne vais rien vous apprendre en disant ça. Je ne vais pas reprendre le cliché de la fin de la guerre froide, de la chute du mur, etc. Mais enfin, le contexte des années 90, c'est un contexte où, évidemment, les relations bipolaires se transforment, etc. Ça va avoir, logiquement, un effet direct sur la manière d'utiliser les technologies spatiales et les fins militaires. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on se rend compte que, notamment, alors là, aux États-Unis, et là, on est aujourd'hui, effectivement, encore dans une période où, je dirais, le moteur principal de ces changements, c'est un moteur américain, parce qu'ils sont les seuls, je vous l'ai dit tout à l'heure, à investir de cette manière, mais en plus, parce qu'ils ont le sentiment que, finalement, ils ont une certaine latitude pour réorienter leurs priorités. Quand ils sont aux prises avec cette situation nouvelle, où ils se demandent s'ils ne sont pas la seule puissance qui reste finalement dans le monde, ben ils se disent qu'il y a effectivement cette relation bipolaire qui avait structuré toute leur pensée stratégique dans la guerre froide, qui évolue, et ils ont sans doute, en tant que puissance unique, puissance mondiale, d'autres devoirs stratégiques. Vous le savez, c'est la bottom-up review du début des années 90 avec les SASPIN. C'est l'idée que désormais, ils seraient capables, ils doivent se mettre en condition d'être capables de mener deux conflits régionaux majeurs simultanément, etc., etc. En gros, ils doivent maintenant être capables de faire la guerre conventionnelle, en plus que d'avoir assuré leur défense stratégique. Sa première guerre du Golfe, c'est le premier exemple de ce type de conflit. Ça va avoir un impact direct sur les technologies spatiales américaines et par extension sur les réflexions dans les autres pays. On ne veut plus voir les mêmes choses, on ne veut plus voir seulement les missiles intercontinentaux, on veut voir des missiles à courte portée désormais, et on ne les voit pas avec ce qu'on a. On ne veut plus détecter ces missiles, seulement les missiles intercontinentaux, on veut détecter les missiles à courte portée, on veut voir des unités mobiles, on ne veut pas voir nécessairement des silos de missiles, on veut communiquer différemment, on veut écouter différemment, bref, on se rend compte que tout ce qu'on a développé pour la guerre froide, tous ces moyens technologiques, est extrêmement adapté à une ère, à ma fameuse strate géologique de l'espace stratégique, mais pas du tout adapté à ce que j'appelle, moi, l'espace opératif, la nouvelle ère géologique d'espace opératif ou tactique. Alors, tactique, je sais qu'il faut utiliser ça, et j'en suis d'accord avec beaucoup de précautions. Enfin, l'ère de l'espace au service du combattant. Les keyholes que je vous ai montrés tout à l'heure, les Midas, le DSP n'est pas du tout adapté pour voir des scuds à 300 km ou des scuds à 600 km, etc. Donc les États-Unis vont rentrer, et ce seront les seuls à le faire, dans une période de refonte complète et de leurs moyens et de leur doctrine en matière spatiale, et vont commencer, et on en voit seulement les fruits aujourd'hui. Le spatial a cette particularité d'être très très lent à développer. Vous prenez une décision pour développer un satellite, vous avez le satellite classiquement 10 ans plus tard quand ça se passe bien. Et donc ça, c'est un problème d'ailleurs. C'est un des problèmes du spatial qui est en train de changer aujourd'hui avec ce qu'on a dit tout à l'heure, j'y reviendrai. Donc on va commencer à réfléchir à la place de l'espace et à la nécessaire reconversion des moyens spatiaux qu'on avait développés pour la guerre froide. C'est un enjeu politique majeur pour les États-Unis. Comment reconvertir un potentiel considérable avec une industrie auquel est adossée une industrie importante, dans un contexte stratégique qui a changé. Ça devient non plus un sujet militaire seulement, c'est aussi un sujet politique, je veux dire, voire un sujet de société. Et bien sûr, un sujet économique, industriel et financier. Il faut absolument que l'espace continue d'être, un vecteur de puissance pour les pays qui sont, pour un pays qui est avancé technologiquement, qui est financièrement puissant et qui est politiquement normatif. C'est l'enjeu de toute la reconversion de l'espace militaire, des technologies spatiales qui vont se faire dans les années 90. Et donc, dans les trois domaines que je vous ai cités, ou les quatre domaines, l'observation de la Terre, par exemple, on va commencer à vouloir faire des satellites agiles. Peut-être un peu moins précis que ce qu'on regardait. Quand on regarde précisément, c'est comme un téléobjectif avec un oiseau sur une branche. Vous verrez très bien l'oiseau, mais vous ne verrez pas l'arbre. Vous voulez voir un peu la branche. Donc, vous faites un peu moins de téléobjectif, mais vous allez voir quelque chose qui est un peu plus large, qui vous permet de voir des choses plus mobiles, etc. On va faire aussi on va investir dans de la R&D, par exemple, sur des matrices infrarouges, pour pouvoir aller plus loin dans l'atmosphère, voir les départs de missiles. Le problème, c'est que quand vous allez plus loin dans l'atmosphère pour voir les départs de missiles, vous voyez plein de fausses alarmes, vous voyez plein d'autres signes, signatures thermiques. Et donc, ça veut dire qu'il faut que vous mettiez en place de l'algorithmie pour les traiter, il faut que vous mettiez en place des bases de données, il faut que vous commenciez à patiemment accumuler de la signature à partir de l'orbite, etc. Vous allez faire la même chose pour l'écoute, vous allez avoir des réseaux, vous allez avoir en face de vous des gens qui vont être des combattants très différents de ceux auxquels vous vous adressiez avant. Avant, vous vous adressiez à une armée dont les comportements étaient très codifiés, avec des signaux extrêmement précis qu'il s'agissait de capter. Là, désormais, vous êtes plus sûr du tout, un, du terrain sur lequel vous allez intervenir, et deux, des adversaires que vous allez avoir en face de vous. On a parlé d'asymétrie, ça va être des adversaires qui ont une manière de faire, etc., à disposition des matériels de différentes natures. Donc il faut absolument pouvoir capter tout ça. Donc ça va être quelque chose, on s'en rend pas vraiment compte nécessairement. Quand on regarde bien ce qui s'est fait aux États-Unis, ça va structurer tout leur effort des années 90 jusqu'à aujourd'hui, essayer de convertir à la fois cette technologie et leur manière de faire pour répondre à ces objectifs-là. Donc ça, c'est quelque chose de très important, à mon avis, et c'est le premier révélateur, effectivement, c'est la guerre du Golfe. Alors, quel meilleur emblème de l'espace au service du théâtre que de citer, de prendre comme exemple l'utilisation du GPS pour guider les munitions. On en a parlé tout à l'heure. Je vous ai mis, alors ça, ce sont des chiffres que j'ai reconstitués de différentes sources, juste pour vous donner, en fait, si on allait un peu plus loin, d'ailleurs il faut que je le fasse, si on allait un peu plus loin, on se rendrait compte que là, on est quasiment maintenant à 100% de munitions guidées sur les conflits qui sont actuels. Mais ce qui est intéressant, si vous prenez, voilà, entre l'Irak en 91 et l'Irak en 2003, vous avez sur un total, alors évidemment le total de munitions n'est pas le même, mais en valeur absolue, dans la deuxième colonne ici, vous voyez que on passe de 9500 munitions guidées à 19950, en proportion de munitions bien moins nombreuses ici tirées que ici, si vous voulez. Et sur ces munitions guidées, vous avez deux types de guidage, le guidage laser, le guidage GPS. Alors évidemment, ce qui est un peu trompeur, c'est que selon le théâtre où vous êtes, si vous êtes dans le désert, etc., vous allez utiliser du laser. Si vous êtes à Sarajevo avec un temps pas très beau, vous allez plutôt utiliser du GPS. Donc, toutes choses égales. Ce qui est intéressant, si vous voulez, parce qu'on a, des taux qui quand même sont un peu variables dans la répartition entre le GPS et le laser. Mais si vous regardez le total de guidage, il y a eu évidemment 0% de munitions laser, GPS, pardon, guidées GPS en 91. Et vous voyez que graduellement, eh bien finalement, ça s'installe. Et je pense que si, genre, j'ai vu quelques chiffres passer, mais qu'il faut confirmer, si on regardait les conflits actuels, on aurait beaucoup plus de munitions guidées GPS en valeur absolue aujourd'hui. Je vous ai juste proposé ce tableau pour vous donner, cette marque, ce signe du changement de conception de l'utilisation de la technologie spatiale au service du combattant. Voilà, alors, moi, c'est ce que j'appelle, alors ça, c'est la deuxième couche qui vient se couvrir la première, la couche socle, à partir des années 90. C'est ce que j'appelle l'espace opératif ou l'espace tactique, si vous voulez. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce GPS, tout va aller très vite. Et finalement, l'espace ici est un multiplicateur de force. On l'a dit hier, on en a parlé pour un autre sujet. C'est vrai qu'à cette époque-là, on se dit il faut que l'espace soit un multiplicateur de force. Et puis très vite aux États-Unis, on s'est dit mais non, il ne faut pas que ce soit un multiplicateur de force. Il faut ce qu'ils appellent, ce qu'ils appellent un strategic enabler, c'est-à-dire, on va dire en français, un catalyseur stratégique, ce n'est pas très beau. C'est quoi la différence? La différence, c'est que, effectivement, on va concevoir d'utiliser l'espace pour améliorer, d'abord, dans un premier temps, les performances des systèmes d'armes et des systèmes de renseignement. Et très, très vite, ça va se faire en 4-5 ans. On va dire, mais non, c'est pas ça la question. La question, c'est qu'il faut que les systèmes d'armes et de renseignement se construisent autour des technologies spatiales, que ce soit intégré dans la conception même des futurs systèmes. Et c'est là où on dit l'espace devient ce strategic enabler, etc. C'est quelque chose qu'ils vont mettre en œuvre assez vite. Et effectivement, on a une différence de conception qui va les conduire en fait à mettre l'espace au cœur de leurs préoccupations militaires et pas seulement. Bien au-delà, parce que ce que va signifier aussi ce changement, cette évolution, c'est qu'on va passer du militaire au sécuritaire très vite. C'est-à-dire ce qu'on peut faire pour le militaire, ce qui peut servir pour les opérations militaires, ça peut servir en fait de manière permanente pour la sécurité nationale dans toutes ses fonctions, dans toutes ses dimensions. Et donc on va englober aussi bien les opérations que le renseignement, que la sécurité intérieure, etc. Et tout ça, il se trouve, correspond à des préoccupations politiques du moment. Donc la connexion dont j'ai parlé tout à l'heure, là, cette espèce de mariage entre la technologie et le politique, elle continue, elle a été constamment, au niveau américain, réactualisée par l'évolution de leur perception de leur sécurité nationale. Ça, c'est très important à comprendre parce que c'est comme ça qu'on peut simplement... On ne peut lire l'augmentation considérable, la consolidation très forte du budget spatial militaire aux États-Unis que pour cette raison-là, que parce que cette connexion, l'espace répond totalement à la perception qu'ils ont de leurs besoins en matière de sécurité nationale. Donc ça, ça c'est important. Autre chose que je voulais dire, l'espace multiplicateur de force, ça correspond aussi, et je pense qu'on en a parlé tout à l'heure, on pourra en rediscuter, à la conception de l'utilisation de l'arme aérienne comme moyen de contrôle des théâtres. Il se trouve que ça tombe bien, l'espace, ça se marie particulièrement bien avec l'utilisation accrue de l'arme aérienne comme arme principale, comme arme la plus facile, hein, finalement, la plus simple d'emploi. Que les politiques aiment. Donc il y a une espèce d'alchimie qui se fait. Ça correspond à la mobilité, aux besoins de réactivité, à la couverture, à la profondeur du théâtre, etc. etc. Ça, c'est important aussi parce que ça crée cette alchimie. On ne peut pas parler d'autre chose. Donc on va raccourcir les boucles au ODA. L'idée, c'est la vitesse. Et donc tout ça... aux États-Unis, prend une sorte de statut particulier dans les années 90, puis les années 2000. Les années 90, on parlait de révolution des affaires militaires, de network-centric warfare. Il y avait toute une espèce de mouvement porteur avec ses excès, mais qui crée une sorte de course en avant où l'espace a trouvé, en gros, une deuxième jeunesse, quoi. Et le pari était gagné. Le pari de la reconversion des moyens spatiaux et des investissements de R&D était gagné. Le seul truc, c'est qu'il faut qu'effectivement les gens en face jouent les mêmes règles du jeu que vous quand vous écrivez les règles du jeu. Donc ça, et il faut convaincre vos partenaires que c'est effectivement la voie future pour gérer vos futurs conflits militaires, pour gérer vos futurs problèmes de sécurité nationale, etc. Ça, c'était pas gagné. Il se trouve que l'espace a une autre vertu pour les pays quand on parle de rapport de force étatique. C'est que c'est de l'information, c'est de la chaîne de l'information, et la maîtrise de la chaîne d'information, c'est un élément critique dès lors qu'on veut organiser des coalitions de partenaires, des coalitions interalliées. Qui maîtrise l'information, maîtrise le pouvoir dans la coalition. Là encore, l'espace répond totalement à ce besoin, non seulement par le biais du renseignement, mais par le biais de la maîtrise de la chaîne de commandement, du déclenchement des feux, etc., etc. Et on le voit aujourd'hui, enfin je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire qu'effectivement c'est un point fort des militaires américains. Je ne parle pas de l'efficacité de leurs opérations militaires, je mets ça de côté, mais par contre dans la gestion de leurs relations avec les partenaires, la maîtrise de cette information pendant longtemps a été, et pour eux, et resté pour eux un point essentiel. C'est la raison pour laquelle en France, on a quand même souhaité disposer d'une relative autonomie sur les moyens d'information. Et donc ça, c'est éminemment politique. On est dans le politico-militaire. J'essaye d'aller très vite. Je vais à partir de là, on voit se mettre en place. Effectivement, je vous disais qu'on dépasse de loin l'intérêt seulement militaire. On parle d'intérêt de sécurité au sens large. Donc, on parle non plus de satellites, de systèmes verticaux. On parle d'architecture. On parle de systèmes de systèmes. On parle de système spatial, désormais, dans lequel, d'ailleurs, on va englober à la fois du militaire et du non-militaire. On a parlé de la dualité tout à l'heure, on en a parlé un peu hier. L'espace, ça va être le lieu de la dualité, et de la dualité organisée par l'État et au service de l'État. dans l'intérêt des industries qui servent l'État, avec des évolutions économiques et industrielles et une capacité, je disais, normative dans les standards technologiques, dans la lutte contre la prolifération, etc. Tout ça s'organise et tout ça se pense stratégiquement. À ce titre, sans doute, les gens qui ont été le plus en avance, impliqués dans ces réflexions ont été les conseillers de l'administration Clinton, qui ont vraiment théorisé ça. Et ce qui est assez intéressant, c'est que les gens qui ont théorisé tout ça ne sont pas les conseillers militaires. Sont les conseillers économiques. C'est le NEC, le National Economic Council, qui est d'ailleurs prééminence sur le Pentagone. Par exemple, on va faire du GPS l'outil, on va vouloir faire du GPS l'outil mondial que tout le monde utilisera. Et d'ailleurs, c'est ce qui a poussé l'Europe à faire Galiléo pour avoir une forme d'autonomie dans ce domaine particulièrement sensible de la navigation et surtout de la synchronisation des réseaux. Eh bien, qui a voulu faire ça? Qui a dit il est essentiel que le GPS soit le seul système et il est essentiel de l'ouvrir pour que les gens l'adoptent? Ce sont les conseils économiques contre l'avis du Pentagone. Et c'est le premier exemple historiquement qu'on ait où le Pentagone ait été mis en minorité dans une discussion interministérielle au bout du compte. C'était la première fois que ça arrivait dans la période moderne pour les États-Unis. C'était intéressant parce que, évidemment, on voit bien que l'intérêt militaire, là, il participe de l'intérêt national au sens large. C'est une composante. Et l'espace a cette capacité à être transverse et se prête effectivement à l'interministériel, pour le coup. Alors, tout ça, quand même, et je ne sais plus du tout où j'en suis, parce que je n'ai pas de montre, mais j'ai peut-être encore quelques minutes.
Pour être franc, il n'y en a plus. Je vous écoute avec une telle attention.
Alors, je termine très vite, parce que, effectivement, pour moi, cette... Bon,
alors je, 15h10, 35 minutes.
Je vais très vite. Troisième ère géologique, pour moi, c'est celle-ci. On passe de l'espace opératif et tactique à l'espace sécuritaire. C'est cette inflation. Qu'est-ce qui se passe simplement aujourd'hui? Donc, il y a un tel divorce entre l'évolution américaine et le reste du monde. C'est qu'effectivement, on aboutit à ce système, à cette vision asymétrique des choses, où d'un côté, il y a des enjeux énormes, et ça devient un atout extrêmement sensible qu'il faut protéger. Et de l'autre côté, il y a des gens qui sont encore, je dirais, en train de se poser des questions sur l'investissement spatial. À partir de là, pour les Américains, il n'y a qu'une sorte... moi, je vois poindre une quatrième période. Et ils sont aidés en cela par leurs compétiteurs russes et chinois qui vont dans leur sens, d'une certaine manière. Ils se disent que l'espace a pris pour eux une telle importance, je vous donnais la proportion des satellites tout à l'heure, qu'il faut qu'une quatrième ère aujourd'hui arrive, une quatrième couche géologique, c'est l'espace contrôlé, puisqu'en fait, il faut protéger ces satellites, puisqu'on imagine que désormais, comme l'espace a quitté le contexte de guerre froide, n'est plus sanctuarisé, les satellites américains, alliés ou d'autres, vont devenir des cibles, puisque l'espace se met au service du militaire et se met au service du champ de bataille. Eh bien, le moyen spatial, de manière assez classique, devient une cible, puisque c'est un élément du champ de bataille, au même titre qu'un poste de commandement, etc. Et donc, on est en train de rentrer depuis quelques années, dans une période où, en fait, l'espace lui-même, on se pose la question. On se dit, mais est-ce que l'espace lui-même va devenir un champ de bataille, ce qu'il n'était pas du fait de la guerre froide? Alors, je ne rentrerai pas dans les détails. Il y a des développements dans différents pays, aux États-Unis assez massivement, en Chine un petit peu, en Russie aussi, où les gens essayent de montrer les uns aux autres qu'ils ont les capacités à embêter le gars d'en face. Et on voit même poindre le concept, par exemple, de dissuasion spatiale aujourd'hui. On parle de space deterrence, etc., etc. Bon, la question qu'il faut se poser, et je conclurai là-dessus, c'est est-ce qu'on peut imaginer une guerre dans l'espace désormais? Est-ce qu'on en est arrivé au point où on peut imaginer une guerre dans l'espace? Alors, moi, je serais assez partagé sur cette idée-là. Je pense que à long terme, on peut tout imaginer. À court, à moyen terme, ça me paraît difficile. Je vais vous dire pourquoi. Mais c'est vraiment une vision que j'ai, qui m'est personnelle et qui a été confortée tout à l'heure par notre ami britannique, indirectement. On a souvent comparé l'espace aux océans. On dit, mais finalement, l'espace, c'est un peu comme les océans. C'est un milieu ouvert. Il n'y a pas de droit. Il y a du droit. Mais enfin, c'est ce qu'on appelle, les Américains aiment bien appeler ça les global commons, etc. La grosse différence, c'est que les océans, c'est quand même un territoire. On habite les océans. L'espace, on n'habite pas. On occupe l'espace, mais on n'y habite pas. On ne voyage pas dans l'espace. On s'y transporte. On se transporte d'un point à un autre. Mais on ne laisse pas de trajet humain. On ne laisse pas de texture humaine. Et la guerre, je pense, jusqu'à preuve du contraire, a besoin d'un territoire. s'exprime sur un territoire, s'exprime. La guerre, c'est humain, c'est quelque chose qui s'exprime dans un tissu, dans une texture humaine. Je pense qu'aujourd'hui, compte tenu de la nature même de l'espace, ce milieu physique très particulier, on a du mal à l'habiter, et on va avoir du mal à l'habiter encore pendant très longtemps. On aura peut-être des confrontations, des satellites qui vont embêter. De là, parler d'une guerre dans l'espace, ça me semble très très excessif. Je ne dis pas que ça n'arrivera pas à long terme, mais je pense qu'une guerre dans l'espace ne peut se concevoir que dans la mesure lorsqu'on sera capable, je dirais, voilà, de voyager dans l'espace au sens du voyage sur Terre, d'habiter l'espace plutôt que de l'occuper. Aujourd'hui, on occupe l'espace, on occupe des lignes, hein, mais on n'occupe pas de zones maillées. Les lignes, c'est les orbites des satellites. Hein, on a des lignes orbitales. On se dit, mince, c'est très difficile de manœuvrer un satellite, par exemple. C'est très difficile de changer de plan d'orbite. On a l'impression que l'espace, on va envoyer des satellites qui vont inspecter d'autres satellites. C'est très compliqué. L'énergie est telle, etc., qu'on ne change pas de plan d'orbite. C'est très compliqué. Donc, on a du mal. Donc, on a des lignes dans l'espace, mais ce ne sont pas des zones maillées. Ce ne sont pas des zones d'habitation. Alors, peut-être un jour, s'il y a des stations spatiales, si on fait une grande infrastructure au point de Lagrange 5 ou des choses comme ça, ce sera des perspectives différentes. On n'en est pas là aujourd'hui. Ça me rassure un petit peu, parce que c'est vrai qu'on a le sentiment en ce moment quand même que les rapports de puissance s'expriment aussi là, et on a cette quatrième couche là qui est là en suspens, un peu comme une épée de Damoclès.